c'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Si vous nous rejoignez, nous parlons de l'entraide aujourd'hui dans C'est pas du vent, l'entraide, la nouvelle loi de la jungle. C'est le titre du livre publié par nos deux invités aux éditions Les Liens qui Libèrent. Nos deux invités que je vous présente tout de suite si vous n'étiez pas avec nous durant la première partie de l'émission. Pablo Servigne, agronome et collapsologue. On n'a pas trop parlé de cette fonction que vous avez aussi, c'est un concept que je vous laisse décrire.
Ah, le collapsologue, c'est la personne qui étudie la possibilité d'un effondrement de notre civilisation. Collapsus en latin, c'est effondrement.
Et on vous a déjà reçu dans cette émission pour votre précédent livre qui expliquait que l'effondrement de notre civilisation était quand même... On ne va pas dire imminent, mais en ligne de mire.
C'est bien parti, là.
Alors, on va y revenir. Heureusement, peut-être que l'entraide va nous permettre d'échapper à cela. Et Gauthier Chapelle, donc agronome aussi, spécialiste de biomimétisme, l'art de s'inspirer du vivant que vous faites connaître à travers le réseau Biomimicry Europa et votre bureau d'études Greenloop. Vous êtes en duplex de Bruxelles grâce à notre correspondant Pierre Benazet, que je salue au passage. Alors, Pablo Servigne, nous avons vu dans la première partie de l'émission que durant tout le XXe siècle, le mythe de l'humain égoïste et compétitif a perduré. La fameuse phrase du philosophe anglais Thomas Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, a conditionné les idéologies du XXe siècle, que ce soit le capitalisme ou le communisme d'ailleurs, alors que vous démontrez dans votre livre, à coups de dizaines d'études scientifiques, que ce postulat est faux. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bon, elle n'est pas totalement faux, mais ce qu'il y a, c'est qu'on remet un petit peu
un peu
d'équilibre dans tout ça, on remet de la lumière sur tout un pan qu'on avait oublié. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a chaussé les lunettes de la compétition. Et quand on met ces lunettes, dans la nature, on voit de la compétition. On voit effectivement que les lions, ils chassent les gazelles, ils se battent pour leur territoire, etc. Et on ne voit plus que les lionnes coopèrent pour chasser, par exemple.
Est l'intérêt au XXe siècle de favoriser, Gauthier Chapelle en parlait un petit peu à la fin de la première partie, mais de favoriser cet état d'esprit ?
Notre constat, pour nous, on n'aurait jamais dû écrire ce livre. C'est une évidence. Ça devrait être appris en maternelle et en école primaire. C'est vraiment la base. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est participer à l'élaboration d'une culture de l'entraide. Là, notre trajectoire de la société est quand même assez mal barrée. Je veux pas détailler les catastrophes qui s'enchaînent et les risques systémiques qui nous pendonnaient. Mais effectivement, c'est devenu assez toxique. Ce climat compétitif qui est partout, le marché, l'économie, toujours plus de compétition, ça stresse les gens, ça développe des maladies, c'est toxique, ça crée des burn-out, etc. Il faut savoir que dans la nature, la compétition existe, il ne faut pas le nier, mais les animaux, en général, l'évitent. Et ils évitent parce que c'est stressant. Alors quand on est bien outillé, bien armé, quand on est motivé, un petit peu de compétition, un petit peu de sport, au meilleur de sa forme, ça fait progresser, certes. Mais quand on se met dans une arène de compétition, de gladiateurs, alors qu'on n'est pas préparé, qu'on n'est pas armé, et que ça dure des jours et des mois et des années, alors là, on finit par faire... on a des problèmes de santé, quoi. Donc c'en est devenu toxique. Notre société est devenue toxique du trop de compétition.
Mais c'est ça qui est extraordinaire quand on lit votre livre, c'est qu'on se dit finalement, on est malade d'un système que l'on a créé. Et ces maladies, c'est vrai qu'on les voit de plus en plus. Vous parlez du burn-out, du stress, et c'est dans toutes les cultures. Est-ce qu'il y a des cultures qui échappent à cela ?
Non, c'est pas dans toutes les cultures. Nous, on décrit vraiment, c'est la philosophie qu'on connaît, la philosophie occidentale. Nous, on fait remonter à la fin du Moyen-Âge, le début du libéralisme, Hobbes, Locke, Hume, tout ça. Tous des philosophes qui d'ailleurs étaient assez désabusés de la nature humaine, puisqu'ils sortaient des guerres de religion, ils étaient complètement traumatisés. L'Europe était traumatisée, donc ils voyaient dans l'homme un être sanguinaire et par extension la nature entière. Et donc eux, leur vision, c'était qu'il fallait créer une société uniquement sur la base du marché, quelque chose de très neutre, encadré par l'État, sinon on allait retomber vers la barbarie. D'autres philosophes ont dit le contraire, mais on ne les a pas écoutés. On est parti sur cette voie, mais d'autres sociétés, d'autres peuples, d'autres cultures ne fonctionnent pas du tout comme ça. Il y a des formidables travaux d'anthropologues qui sont allés voir si l'homo economicus existait.
Alors c'est quoi l'homo economicus ?
Cet être rationnel et égoïste qui fait des choix économiques. C'est la base de la théorie néoclassique, économique ici. C'est un modèle qui est théorique et qui ne correspond pas vraiment à la réalité, puisque l'être humain est non seulement irrationnel, mais aussi altruiste, entre autres. Et donc il y a des anthropologues qui sont allés tester, voir si l'homo economicus existait au fin fond de l'Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, dans les peuplades. Et ils sont revenus avec la réponse non. L'homo economicus n'existe pas parce que quand on fait des tests standards économiques, tous les êtres humains, toutes les cultures sont plus coopératives que ne le prédisait la théorie. Alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une diversité incroyable de cultures. Donc nous, on n'est pas en train de parler, de dire que l'être humain est instinctivement, que c'est inné, que c'est génétique, etc. Il y a des facteurs génétiques, mais il s'est surtout entremêlé avec beaucoup de cultures.
Et la bonne nouvelle, justement, oui, c'est ce que vous démontrez dans votre livre, hein, Gauthier Chapelle, c'est que ça s'apprend, en fait, l'altruisme. C'est-à-dire qu'on a un cerveau qui instinctivement est plutôt empathique, plutôt altruiste, mais si en plus on a un environnement qui nous incite à ça, ça devient un réflexe très facilement.
Oui, tout à fait. Il y a vraiment un renforcement successif et qui démarre effectivement très tôt dans la vie. Moi, ça me refrappe à nouveau comme jeune papa. C'est de voir à quel point le binôme maman-bébé est dans une vulnérabilité qui demande de l'entraide. Une maman et un bébé tout seul, même avant la naissance et après la naissance, ça ne fonctionne pas. Ça a besoin d'une tribu et donc ça a besoin d'une entraide qui fonctionne. Et donc effectivement, c'est quand même un apprentissage qui se fait très facilement, hein, qui est vite renforcé par des expériences positives, ça c'est sûr.
Notre patrimoine génétique nous donne une incroyable sensibilité à la socialité. Et en fait, c'est très beau ce que dit Gauthier, parce que c'est notre vulnérabilité incroyable, petit primate immature et imberbe à la naissance, incapable de s'en sortir. Et c'est cette vulnérabilité qui nous a obligés à être ultra social et qui nous a donné notre puissance. L'être humain est devenu puissant parce qu'il est très vulnérable.
Alors vous dites que la cohésion d'un groupe repose sur trois ingrédients qui sont des conditions absolues pour que le mécanisme de l'entraide fonctionne. Il s'agit de la sécurité, de l'égalité, de la confiance. Je vous propose de partir en Inde, à Bombay, visiter la coopérative Lijat qui incarne, je pense, parfaitement ces valeurs. C'est un reportage de Sébastien Farcy.
Tous les jours, sans exception, le travail commence à 6h du matin par une prière. Une prière à tous les dieux, Brahma, Jésus ou Allah, devant un grand portrait du travailleur social qui a aidé les 7 premières femmes à lancer cette organisation en 1959 avec un prêt d'à peine 80 roupies. Aujourd'hui, ces femmes considèrent cette entreprise comme leur temple et leur dur travail est quasiment une religion pratiquée sans répit. Dans cette énorme coopérative, le salaire est versé tous les jours pour toutes les travailleuses. Le minimum est d'un peu plus de 2 euros par jour pour 5 kilos de galettes. Ce jour-là sont également versés les dividendes sur les profits de cette branche. Un chèque d'environ 150 euros par travailleuse pour les 6 derniers mois d'activité. Et le traitement est le même pour toutes, même pour la présidente nationale, à qui est attribué un salaire équivalent à 60 kilos de galettes quotidiennes, soit 28 euros par jour. Swati Paratkar est la présidente depuis 4 ans. Cette femme simple de 54 ans n'a été à l'école que jusqu'à la classe de 3e et elle a commencé à rouler des galettes avec sa mère dès l'âge de 10 ans.
Dans notre organisation, vous devez avoir commencé par rouler des galettes si vous voulez un jour prendre des responsabilités. Moi, je suis passée par tous les postes ici, donc je peux comprendre les problèmes des travailleuses mieux que n'importe quelle personne de l'extérieur, même diplômée d'une grande université. Cela nous permet également de conserver notre principe fondateur, qui est d'offrir du travail à un maximum de femmes pour qu'elles deviennent indépendantes. Ainsi, nous n'utilisons quasiment pas de machines, car cela enlèverait des opportunités d'accueillir de nouvelles sœurs. La force de Lijat et le secret de son succès, c'est notre solidarité. Je suis moi-même payée tous les jours, comme les autres, et si je ne viens pas demain, je ne serai pas payée. Et je reçois les mêmes dividendes que les rouleuses de galettes. Nous sommes une famille, tout simplement.
Cette famille a dégagé en 2011 un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros à raison d'un prix de vente d'à peine 30 centimes d'euros par 100 grammes de galettes. Et la marque Lijat est aujourd'hui célèbre dans toute l'Inde et aussi dans une dizaine d'autres pays où ses produits sont exportés.
Et voilà la publicité Lijat pour manger des galettes indiennes. Alors voilà un bel exemple d'entraide, une coopérative, une famille. C'est décrit comme cela dans le reportage de Sébastien Farcy. Oui, c'est fort comme mot. Une famille de plus de 40 000 femmes. Alors, ce n'est pas une exception, puisque depuis une décennie déjà, le système des coopératives et plus généralement de l'économie sociale et solidaire qui repose donc plus sur des valeurs humaines et de partage équitable que sur la compétition prennent de l'ampleur. Ça, c'est quand même un signe que l'entraide s'incarne, Pablo Servigne.
Elle s'incarne, mais en fait, je dirais, elle s'est toujours incarnée. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne la voit plus, on n'y croit plus. Mais quand on voit l'école, les coopératives, la sécurité sociale, les entreprises, tout ça, c'est des institutions d'entraide très puissantes. C'est juste qu'on ne les voit plus comme telles. Mais alors, c'est vrai que récemment, il y a une vague, disons, d'économie sociale et solidaire. On parlait, je ne sais plus, environ 10% du PIB ou quelque chose comme ça. Ça reste marginal, mais c'est quand même énorme. Moi, ce qui me frappe quand même, il faut le dire, c'est que 10%, c'est de l'économie sociale et solidaire. Mais alors, ça veut dire 90%, c'est quoi? De l'économie asociale et égoïste? Non, mais il faut le dire quand même. Si on fonde une société avec 90% d'économie asociale et égoïste, comment on veut y arriver? Il faudrait un peu remettre le curseur au milieu, quoi. Alors, il n'y a pas que l'économie sociale et solidaire qui a vraiment un but pas forcément lucratif, hein, mais il y a aussi des modes d'organisation horizontaux, disons ce que Jeremy Rifkin appelle le pouvoir latéralisé, des structures beaucoup moins hiérarchiques, coopératives.
Oui, on va y revenir, c'est ce qu'on appelle la révolution collaborative. Gauthier Chapelle, comment est-ce que vous réagissez, vous, à ce reportage?
Il y a deux choses qui m'ont frappé. D'abord, effectivement, il y a cette question de la non-hiérarchie pyramidale qui est clé, et quand on s'inspire de la collaboration dans le vivant, c'est ce qu'on retrouve. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure sur les arbres et les champignons, ça fonctionne pas de façon pyramidale, il n'y a pas un arbre au milieu qui envoie ses ordres. Ça, c'est la première chose qui m'a frappé. Et la deuxième, c'est quand elle a expliqué qu'ils n'ont pas mis de machine pour pouvoir embaucher toujours un maximum de personnes. Et en fait, s'ils avaient mis une machine, elles auraient créé une abondance énergétique, et en créant de l'abondance énergétique, elles auraient créé de la compétition, comme d'habitude, comme ce qu'on a déjà dit plusieurs fois. Et en entretenant d'une certaine façon cette pénurie énergétique, elle continue à justifier l'entraide et la collaboration. Donc là, on retombe sur ce qu'on observe dans le vivant.
Et alors, Pablo Servigne, à l'instant, vous parliez de la révolution collaborative. Ce sont tous ces sites et applications que l'on peut consulter sur nos ordinateurs, par exemple sur nos téléphones portables, qui incitent plus au partage des biens et des services qu'à l'échange marchand. Nathan Stern fait partie des pionniers. Il a développé des sites de ce type dès 2003, peuplade.fr, voisin-h.fr, Alter Ego, etc., qui ont tous en commun de recréer du lien entre les gens. Et pour lui, si cette économie se développe maintenant, c'est parce que nous sommes arrivés, et il partage votre constat, au bout d'un système.
Elle témoigne au fond de ce que on est allé très très loin dans la rationalisation, dans la modernisation, dans la productivité, dans la spécialisation. Et on a oublié pas mal de choses qui, au fond, feront toujours sens pour l'espèce que nous sommes, une espèce connectée à un environnement, à un écosystème. Et de la même manière, à travers les réseaux sociaux que j'ai pu créer, je m'efforce de rappeler à chacun les capacités sous-exploitées ou inexploitées qu'il a de manière latente. Eh bien, chacun peut mettre à la disposition de ses voisins des talents, des expertises, des expériences, des biens, des services. Et voilà, à travers toute cette dynamique de partage, ce qui est en jeu pour moi, c'est une forme de déspécialisation et de reconnexion à l'espèce à laquelle on appartient. Et on n'est pas des humanoïdes, on est des personnes ancrées dans un environnement avec un contexte qui est local, de là le réinvestissement du local.
Et voisin-h.fr, l'idée là, c'est de lutter contre l'isolement des personnes âgées.
Voilà, donc ça c'est pour le compte des petits frères des pauvres que j'ai conçu cette plateforme. Et là encore, l'idée c'est de mettre en relation des habitants du quartier autour d'une personne âgée isolée. Et grâce à cette plateforme web, on va pouvoir de manière très souple et très fluide interagir entre voisins pour le bénéfice de la personne âgée isolée qui petit à petit va sortir de son isolement, on l'espère, et tisser des liens familiers, des liens de voisins égalitaires et affectifs.
Oui, parce que la personne âgée du coup peut aller chercher notre enfant à l'école et nous on va lui faire ses courses par exemple.
Absolument, la réciprocité c'est vraiment un des enjeux de cette plateforme. Où la philosophie, c'est vraiment de tout faire pour que la personne âgée revienne dans le circuit, comme si elle n'avait jamais quitté en fait ce jeu social de dette mutuelle dans lequel on est les uns et les autres.
Et voilà comment l'on passe d'une entraide familiale à une entraide de quartier, Pablo Servigne. Et l'essor de cette économie collaborative est mondial, c'est surtout
le continent. C'est mondial et c'est très puissant. C'est très puissant parce que ça, c'est aussi le dada de Gauthier Chapelle, mais c'est plus efficace que les structures hiérarchiques pyramidales. Alors attention, c'est plus efficace lorsque l'environnement change. lorsqu'il y a des tempêtes, lorsqu'il y a des catastrophes, lorsque ça, voilà, ça change. Mais c'est vrai que dans un environnement stable, une petite entreprise comme l'armée, par exemple, bien hiérarchique pyramidale, c'est efficace à un certain moment. Mais après, lorsque l'environnement change, c'est les premiers qui disparaissent. Et au fil du temps, la nature a sélectionné plutôt des modes d'organisation décentralisés. Après, moi, ce que je retiens de cet extrait, c'est aussi le besoin de sens et de lien des gens. Effectivement, l'ultra-compétition a ôté un peu le sens de la vie et les gens sont quand même affamés, on le sent, hein, de sens et de lien. Et en fait, ce qu'on montre aussi, les travaux en neurosciences montrent, c'est que l'entraide, ça fait vraiment du bien. Ça déclenche dans le cerveau des aires de la récompense, ça fait du bien.
La fameuse ocytocine, là, cette molécule qui nous fait du bien.
Oui, oui, c'est l'hormone de l'attachement. Enfin, il y a quelque chose de très, très profond ancré en nous. Et juste un petit mot sur ce qu'il disait. L'être humain, effectivement, n'est pas que dans les rapports économiques. Il y a des rapports anthropologiques, hein, c'est énorme. Et c'est tout le sens des travaux de sociologie anti-utilitariste, et je pense au mouvement du MOS qui se décline dans le mouvement des convivialistes, le mouvement politique extrêmement enthousiasmant aujourd'hui.
Alors est-ce que ces soubresauts d'entraide suffiront face aux bouleversements qui sont en train d'émerger ? Nous en parlons juste après une petite pause de circonstances avec les Beatles. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. So much younger than today. I never needed anybody's help in any way. Écoutez, c'est pas du vent sur RFI. Vous avez bien raison, car nous parlons de l'entraide avec nos invités, cette valeur déclarée perdante face à la compétition, à l'égoïsme des humains. Mais c'est un mensonge et nous le savons aujourd'hui. Nous sommes altruistes, ça fait du bien de le dire. Nous savons faire preuve d'empathie, même dans les situations de crise. La preuve, dans les Alpes françaises, à Briançon, cette petite ville de 12 000 habitants a vu arriver plus de 1 600 migrants en un an. Ce sont majoritairement des mineurs, originaires d'Afrique de l'Ouest, qui souhaitent trouver un refuge en France. Ils arrivent d'Italie, ils ont traversé la montagne à pied pour franchir la frontière. Après souvent des jours de marche et de cache-cache avec la police, ces exilés trouvent enfin un peu de réconfort. L'accueil est assuré par les habitants de la vallée, comme Michel Rousseau et Marianne Miclot, chez qui s'est rendue Alice Posiski.
Le souvenir de sa grand-mère, Makoya, est douloureux pour Maury. Le garçon aux yeux en amande semble solide, mais les apparences sont trompeuses. Maury vient tout juste de fêter ses 15 ans. Il est orphelin et a quitté son pays, la Côte d'Ivoire.
Ma grand-mère, elle n'avait rien. Parce qu'elle est vieille, elle n'avait rien. Même pour marcher, c'est un problème pour elle. Donc si je reste à côté d'elle, elle ne peut pas me diriger. Elle ne peut pas m'aider aussi de me scolariser. Si je reste comme ça, je vais devenir un vagabond et aussi je vais faire du mal. Ou bien je vais devenir un brigand. Donc pour elle, elle veut que d'avoir une vie en sécurité. Donc c'est ça qui a fait qu'elle m'a expliqué de partir avec ma grande sœur à Abidjan. Et c'était ma première fois d'arriver à Abidjan.
À cause d'une mauvaise entente avec son beau-frère, à cause aussi d'un oncle qui profite de tous les biens de sa famille, Maury s'est retrouvé sans nulle part où aller. La suite, ce sont plusieurs mois d'errance. La Libye, l'Italie, puis la France, à Briançon, où il est hébergé chez un couple.
Depuis que je suis arrivé en France, je vois des familles qui nous prennent ces gens comme les petits-fils. Et nous, on a des parents au pays, ils ont nos parents sont décédés, ils ont tout laissé pour nos biens. C'est très dur.
Les hôtes de Maurice s'appellent Michel Rousseau et Marianne Miclot. En ce moment, Michel et Marianne accueillent aussi Moussa, un Guinéen de 16 ans. Les deux adolescents ne sont pas les premiers à avoir trouvé refuge dans cet appartement qui offre une vue splendide sur la montagne. Mais de là à ce que Michel sache combien de personnes sont passées par ici...
Non, je ne saurais pas dire. Ça... Bon, il est passé du monde, hein, c'est sûr. Je ne sais pas, peut-être une vingtaine de personnes, je ne sais pas. Pour mon épouse et moi, c'est normal, on a de la place, donc c'est normal d'accueillir, c'est sûr. La question de l'hospitalité est une question fondamentale. Je suis assez vieux pour avoir connu la fin de la guerre d'Algérie, hein, avec des centaines de milliers de personnes qui sont arrivées en France. Il a fallu accueillir, donc il a fallu faire un peu de place. Et nous, par exemple, dans ma famille, on a accueilli des gens sans se poser la question de savoir d'où ils venaient, qui ils fuyaient, voilà. Simplement, il fallait bien qu'ils trouvent un toit, ces gens-là. Donc c'était normal d'ouvrir sa porte.
Michel n'a jamais caché qu'il hébergeait des migrants chez lui. Il ne voit aucune raison qui le pousserait à le faire. Pourtant, au regard de la loi, lui aussi risque des poursuites.
On est droit dans nos bottes au sens qu'on considère qu'on est dans la légalité et, dans la, et a fortiori dans la légitimité. C'est l'État aujourd'hui qui est hors la loi. Ceux qui nous condamnent se salissent et l'histoire jugera. Nous, on respecte les droits fondamentaux. L'hospitalité, c'est un droit fondamental. Ces gens qui fuient, est-ce qu'on se pose la question de pourquoi ils fuient? Ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas pris tous les risques qu'ils ont pris comme ça pour venir faire du tourisme en France. Hein. Ce sont des rescapés. Et donc... Ils ont droit au respect et à la dignité. C'est nous qui sommes dans la vraie légalité, hein, celle des droits de l'homme.
Gauthier Chapelle, voilà un bel exemple d'entraide face au chaos. Ces gens sont modestes, hein, ils aident avec des moyens dérisoires. Ils prennent même des risques, puisque ce qu'ils font est illégal.
Oui, je dois dire que ça me touche beaucoup parce que ça... Enfin, il se fait que moi, j'ai vécu une partie de mon enfance en Afrique. Il se fait que j'ai aussi passé des vacances à Briançon, que je voyais absolument pas comme un endroit qui allait devenir comme ça une tête de pont d'entrée des migrants, mais surtout d'accueil des migrants. C'est une histoire... magnifique qui nous est conté et qui confirme encore une fois, moi je suis très touché par sa dernière phrase, de dire c'est un droit fondamental et c'est ceux qui considèrent qu'accueillir nous met dans l'illégalité, ils sont vraiment à côté de leur pompe, quoi. Il y a quelque chose qui va plus, qui les désaligne. Et du coup, je voudrais revenir aussi sur une des phrases que j'avais jamais écoutée, d'ailleurs, dans la chanson des Beatles, Help Me, qui est Help Me get my feet back on the ground, c'est ramène-moi les pieds sur terre. C'est ce qu'ils font, là, ceux qui accueillent, c'est ce qu'ils font. Ils nous ramènent, ils ramènent les pieds de tout le monde sur Terre.
Alors, dans votre livre, vous posez la question de savoir si nous pouvons envisager une entraide générale du genre humain en prenant comme grand méchant loup le changement climatique, parce que là, on parle de migration et encore, les migrants climatiques ne sont pas encore sur les routes. Gauthier Chapelle, est-ce que vous pensez qu'on peut envisager cette entraide générale?
Moi, je pense qu'on peut l'envisager maintenant, à savoir, est-ce qu'elle va nous... Enfin, vous disiez tout à l'heure, est-ce que ça va nous éviter des effondrements? Moi, je dirais plutôt que ça va surtout nous permettre de les traverser et puis d'être prêt pour réinventer ce qu'il faudra après et qui sera sans doute hors de l'abondance énergétique exceptionnelle que nous connaissons. Et du coup, ça me ramène au slogan de la sobriété volontaire qui dit « moins de biens, plus de liens ». Et donc, je pense qu'effectivement, les changements climatiques, parmi d'autres contraintes environnementales, peuvent nous conduire petit à petit à réaliser que nous sommes des humains dans la même galère, plutôt que des nationaux ou des régions ou des villes qui chacun va faire du chacun pour soi. Mais c'est pas gagné. Et la réponse est sans doute pas univoque. Il y aura sans doute des situations où l'entraide va se déployer et puis d'autres où elle sera coincée par différents mécanismes. Mais il ne tient qu'à nous, en tout cas, d'aller la chercher à l'intérieur de nous. Et l'exemple là de ce couple est tout à fait éclairant à ce niveau-là.
Pablo Servigne.
Oui, c'est aussi une réponse un peu nuancée. Je pense que c'est possible, mais c'est pas évident parce que les conditions sont pas réunies actuellement. On a vu tout à l'heure que dans un groupe, pour qu'il y ait entraide, coopération, pour que la magie opère, il faut des conditions, un sentiment de sécurité, un sentiment d'égalité, un sentiment de confiance. C'est pas du tout réuni actuellement entre les pays, entre les négociateurs. Dans les COP, il y a des pays énormes, il y a des pays tout petits.
Les conventions climat des Nations Unies.
C'est, oui. Voilà, on est loin, mais on pourrait. Hein. Mais il y a un autre bémol, c'est la taille. Un couple qui accueille des réfugiés, c'est pas du tout la même chose que des grands pays de millions de personnes qui coopèrent. Et je pense que c'est ce qu'on dit un peu dans le livre, la taille importe en fait. Et nous, les humains, on fait des sociétés de millions d'individus. C'est pas facile de maintenir une cohésion. On a changé d'échelle et on maîtrise pas forcément tout comme on pourrait maîtriser entre deux personnes, entre trois personnes, dans un syndic d'immeuble, une association. C'est quand même autrement plus difficile.
Donc 12 ans de travail pour nous dire que finalement, l'entraide ne nous sauvera pas d'effondrement.
Non, non, il ne nous sauvera pas, non, c'est pas du tout. Comme dit Gauthier, c'est une trousse à outils conceptuelle pour créer une culture de l'entraide, pour traverser au mieux possible les tempêtes qui arrivent. Je ne pense pas qu'on pourra éviter un effondrement, mais on pourra désamorcer quand même quelques conflits. Encore une fois, ce qu'on peut retenir, c'est que ce ne sont pas les pénuries qui posent problème. L'être humain, je pense qu'il sait gérer les pénuries depuis des centaines de milliers d'années. Ce qui est problématique, c'est d'arriver brutalement dans les pénuries avec une culture de l'égoïsme. Et là, ça crée des catastrophes, vraiment. Donc désamorcer de manière anticipée cette culture de l'égoïsme, c'est maintenant. Notre bouquin, il suit toute une filiation intellectuelle. Il y a plein d'auteurs qui commencent à faire ça. Il y a toute une culture qui se crée. Il faut pratiquer, c'est très dur d'aller vers l'autre. Ça demande du courage, ça demande de la bienveillance, ça demande des compétences. On ne peut pas juste compter sur l'instinct ou la bonne volonté. Et c'est pour ça qu'on a du travail, mais c'est possible. Il y a un horizon qui se dessine.
Voilà, une note optimiste pour terminer cette émission. Merci à tous les deux d'y avoir participé. Je rappelle le titre de votre livre, L'entraide, l'autre loi de la jungle. C'est publié aux éditions Les Liens qui Libèrent. Merci à Pierre Benazet qui a permis ce duplex avec Bruxelles, à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde, et à vous pour votre fidélité. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur notre application Pure Radio et sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Émissions. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve demain, même planète, même heure.